Pop, popienne, pop, popien et tous les autres aussi, bonjour. C'est vendredi, c'est podcasty. Comme tous les vendredis, pop, pop, pop se transforme en pop, pop, podcast. Ce phénomène pop culturel tellement massif qu'une chatte aurait du mal à y retrouver ses petits. Heureusement, pop, pop, podcast est là pour vous aider à trier le bon grain de l'ivraie. Et voilà déjà deux expressions casées en quelques phrases. Et je m'en frotte les mains. Et hop, une troisième. Nos invités aujourd'hui, Manon Bril et Alex Ramirez, l'une est historienne, l'autre humoriste, travaillent en couple, enfin en tous les cas en binôme, comme Sartre et Beauvoir, Roux et Combaluzier, ou bien sûr Roux et Decaune. Et au lieu de popoter tranquillement de tout et de rien, comme je sais pas moi, des séries télé par exemple, ou de sujets d'ordre plus général comme les nouveaux féminismes, ils s'intéressent à l'histoire avec un grand H, comme dans Hiroshima, avec autant de souffle, mais moins de dommages collatéraux. L'histoire, en voilà un sujet palpitant qu'il est bon de populariser auprès des générations montantes. Le passé éclaire le présent, et donc le futur, et de ce côté-là, on n'a jamais assez de lumière, croyez-moi. Retour vers le futur, donc aujourd'hui, avec Oye, Oye, le podcast de la semaine. Pop-up podcast, épisode 9, c'est parti.
France Inter. Pop-pop-pop. Antoine Decaune.
Bonjour, Manon Bril.
Bonjour.
C'est un pseudo.
Oui, c'est un pseudo, tout à fait, ça fait un jeu de mots, ça fait nombril.
Vous me rassurez. Bonjour, Alex Ramirez.
Bonjour.
C'est un pseudo?
Malheureusement, non.
Non. Non. Et Ramirez, Ramirez avec un S.
Exactement.
Hein, pas avec un Z.
Voilà, sinon on tombe sur des surfeurs mexicains.
Des surfeurs mexicains ou un célèbre hôtel de la Croisette. Alors, bienvenue à tous les deux. Dans ce podcast. Avant toute chose, arrivez-vous à prononcer correctement le nom de cette émission?
Ah ouais.
Voilà. Okay. À vous, Alex.
Pop, 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 podcast.
Ok, alors encore une chance pour vous maintenant.
Je partais avec toute mon assurance. Allez. Pop, pop, podcast.
Pas mal, on s'approche.
Moi, je mets plus de pop en plus. Pop, 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 pop.
Ok, ouais, c'est pas grave. C'est la bonne réponse. C'était pop, pop, podcast. Oh. Comme vous avez passé cette étape brillamment et haut la main, nous allons donc parler de votre podcast Oye, Oye. C'est un podcast qui dépoussière l'histoire et qui est disponible sur Spotify depuis déjà quelques semaines. Manon Bril, au-delà de votre nom rigolo, vous êtes docteur en histoire slash youtubeuse avec votre chaîne de vulgarisation historique. C'est une autre histoire.
Tout à fait.
Confirmez tout ça?
Oui, je confirme. C'est validé.
Sur cette chaîne
De l'histoire, alors des sujets absolument divers et variés. Une fois par mois, il y a un épisode en animation qui sort, qui dure 3-4 minutes, et une vidéo de plutôt une vingtaine de minutes en face caméra, qu'on dit plus classique. Et les sujets, ça peut être absolument tout et n'importe quoi. Venez voir.
Très bien, venez voir Alex Ramirez avec un S au bout. Au-delà de votre nom rigolo, vous êtes stand-upper / youtubeur et rien ne vous prédisposait à faire un podcast sur l'histoire. Mais, j'ai fouillé et j'ai trouvé un lien car vous avez commencé dans un café-théâtre qui s'appelle le nom Bril.
Oh là là!
Et voilà!
Les astres étaient alignés depuis le début.
Mais oui, n'était-ce pas le premier signe de cette future collab avec Manon Bril pour parler d'histoire?
Je crois. C'est le seul d'ailleurs parce que
le destin, franchement.
Mon ignorance en histoire vraiment est à saluer aussi et j'apprends, à chaque podcast, j'apprends en fait. C'est ça qui est bien.
C'est bien le but.
Ignorance totale, c'est-à-dire que.
On est sur de la candeur, on est vraiment plus que candide là.
Si je vous dis Mérognon 1515.
Ah, je vous dirais Marignan.
Ah, ben voilà. Oui. Ben non, ce n'est pas tout à fait un cas désespéré. En réalité, votre point commun à tous les deux, c'est de ne pas aimer la géographie. Aucun de vous deux ne sait colorier les océans sans déborder, c'est ça?
On a installé un petit running gag en taclant la géographie, alors qu'en vérité, la géographie n'a rien fait de mal et l'histoire a besoin de la géographie, mais bon, voilà, on a un petit peu des coquilles quand même.
Oui, j'aime beaucoup la mauvaise foi, moi, et je trouve qu'on a envie de se venger de colorier ces océans, les volcans rouges, les reliefs. Les montagnes, on s'en foutait.
Alex Ramirez, avec un S au bout, hein, vous revendiquez cette ignorance en matière d'histoire, mais aussi en matière de géographie.
Ah oui, on est sur. Moi, j'ai eu mon bac grâce aux options artistiques. Donc, par contre, cinéma, il y a du monde.
Incollable.
Mais par contre, pour le reste, j'en apprends tous les jours.
Bon, après, on peut dire que tu forces un peu le personnage aussi volontairement pour les besoins du podcast, pour poser les questions au grand public.
J'en suis sûr.
Voilà. J'ai été chez moi sur la commune et j'étais pas du tout ignorant quand on a fait un épisode dessus. Évidemment que non.
Bon, alors, votre podcast. podcast a pour titre Oye Oye. Mais d'où vient ce nom à la croisée des chemins entre les crieurs publics du Moyen-Âge et le flot des rappeurs ou un peu de Johnny, comme on veut?
Bah, c'est vrai qu'on voulait un nom qui fasse un peu, qui donne un peu le ton du podcast, qui est, ça parle de contenu vraiment, parce qu'en gros, à chaque épisode, on a un invité ou une invitée qui est historien ou historienne, donc, et c'est il ou elle qui donne le contenu vraiment, parce que nous, on pose des questions, simplement, on discute. Donc, il y a les sachants, comme on dit, qui donnent les infos, mais c'est détente, c'est rigolo, le but, c'est que ça soit le plus compréhensible par le plus grand nombre possible de gens. Je sais pas si cette phrase est correcte, mais bref. Et du coup, on voulait un nom qui soit un petit peu, un peu à la fois, qui renvoie à l'histoire et un peu aussi ancré dans le contemporain. Et je crois qu'on avait un doute sur qui avait trouvé ce nom, mais il me semble que c'est notre réalisateur Maxime. Il me semble.
Non, je crois que c'est moi.
Salut. Tu crois que c'est toi? Ah oui, ok. Donc pour la légende, on dira que c'est Alex. Très bien.
Pour mon ego.
C'est pour son ego.
C'est Alex Ramirez avec un S. Ok, bon, d'accord. Trouver ce Oye Oye dont nous allons parler dans un instant avec Charline Roux. Mais à défaut d'avoir de la musique de crieur public sous la main, je vous propose le morceau d'un rappeur pour commencer. C'est Damso.
Je suis tellement loin. C'est parti pour quelques heures. Tant que débranché, tant que défoncé, plein de sensé, sort dans ma tête de bouche, faut que je me teste, que je l'ouvre, ok. Trop de tes questions brusques, beaucoup de pression, muscles, trop de stress, pas d'émotion. Agression à chaque réflexion, back, oppression à ta restriction, black. Tu veux pas de moi, tu veux pas de nous, mais tu peux pas le dire en face, pas le prendre. Je te demande un minimum de respect. Je calme mes nerfs, je vais ER, tango. Je balance des phrases sur une compo. Je calme mes nerfs, j'en vais ER, tango. Je balance des phrases sur une compo. Moro. Moro. Donne-moi ton père, puis je t'appelle et ramène à l'hôtel comme si de rien n'était. Donne-moi ton père. L'amour va la mort, t'arrêtes pas de causer du tort. Tu t'ouvres les veines mais encore, là t'ignores tous tes efforts. Tour à tour les deux bords, se ferme et tu te fais des bords. S'il le faut tu le fais, il est faux tu le sais. Illico tu le fais, silicone dans la fesse. Unicone dans la presse, une miche dans la tête. Jamais seul tu t'en sortiras, il reste une place dans le corps. Yeah. J'écris sur tout ce que je pense et j'écris sur tes son coquillard. Yeah. Et sur ce que je risque d'apercevoir. J'aime quand je te perds, regarde d'avance. Quand c'est ta chair, chante ta fragrance. Tout c'est sévère, la manque douce à l'ammoniaque. T'aimes le bandit que je suis, t'aimes la vue que tu me suis. Compte sur mes économies, t'es ma que pour aujourd'hui. Tapis, j'ai fait doubler la mise, père. Bientôt j'abandonne le bis, c'est pas loin. J'prends vis et mer. J'calme mes nerfs, j'vois avec ER, tango. J'balance des phrases sur une compo. J'calme mes nerfs, j'vois avec ER, tango. J'balance des phrases sur une compo. Moro.
Damso, c'était le morceau Morose dans Pop Podcast sur France Inter et vient de nous rejoindre Charline Roux.
Bonjour.
Bonjour Charline.
Bonjour.
Charline. Bonjour Charline.
Quand même,
bonjour
ça, Charline. Les enfants.
Regardez cet accueil chaleureux.
Elle m'a intrigué. Bon. Bonjour.
Ouais, j'ai tenté un truc. Ouais, mais... Je suis pas sûr encore de le garder.
Parfait. Parfait.
Un soupçon de sensualité, non?
Oui, il y avait du mystère. Ouais.
Intriguant.
Vous voulez savoir la bonne aventure?
Ouais, c'est ça.
Suivez Charline.
Tendez la main.
Charline, je vous présente donc Manon Bril et Alex Ramirez avec un S au bout, les auteurs du podcast Oye Oye. Ce podcast que vous avez écouté attentivement.
Et j'ai appris plein de trucs, tout comme le candidat Alex Ramirez qui, quand on lui parle de l'invention de la roue, pense à la figure de Jim, ce qui fait toujours plaisir, face à l'érudite Manon Bril, hydre à deux têtes qui démonte quelques idées reçues sur l'histoire avec un grand H. Alors pourquoi cet attelage pour vulgariser? Et je rappelle que vulgariser, ce n'est pas sale.
Absolument.
Comment vous êtes-vous choisi?
En fait, c'est un peu à la manière du duo Whitney Houston, Mariah Carey, qui à la base se connaissaient pas vraiment. On leur a dit Prince d'Égypte, allez-y. Et moi, je savais.
Ouais, on s'est rencontrés au podcast en vrai.
Mais je savais que t'étais cool.
Moi, je savais pas du tout, mais j'ai été ravie. Donc, pas de problème.
Mais c'est-à-dire que vous êtes rencontrés au podcast en vrai?
On se connaissait pas du tout d'avant et on n'a pas monté le projet nous-mêmes. En fait, on a été appelés pour le faire et on a trouvé le projet. Enfin, en tout cas, moi, j'ai trouvé le projet trop bien. J'ai fait aussi. Ah oui, je suis chaud. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés.
Et vous en êtes contente aujourd'hui, Manon ou...
Oui,
c'est étonnant parce que ça ne s'entend pas quand on vous écoute. On a l'impression que vous vous connaissez depuis hyper longtemps.
Oui, c'est un retour qu'on nous a fait, qui nous a fait assez plaisir.
C'est clair.
On est bien matché, mais c'est carrément.
On a des bons gros délires, comme on dirait.
Mais c'est aussi ça, la magie du podcast. Oyez, oyez, vous le présentez comme ça.
Oyez, oyez, braves gens. Non, on n'a pas un son de trompette plutôt?
Vous aimez l'histoire?
Et vous avez le droit de répondre. Oui, j'aime l'histoire, mais je n'y connais rien. Oui, j'aime l'histoire, mais j'ai plein de questions idiotes. Alors on vous propose ce podcast. Oyez, oyez. Non, la clarinette, ça va pas non plus.
Je suis Manon Bril, historienne youtubeuse. Et oui, absolument, c'est un pseudo.
Mais non, premier scoop, je suis Alex Ramirez, humoriste, reine des neiges. Et non, ce n'est pas un pseudo.
Et dans ce podcast, on va répondre à toutes les questions d'histoire que vous n'avez jamais osé poser.
Comme par exemple, est-ce qu'il y a un rapport entre le débarquement de la baie des cochons et le rosy de porc?
Et même si, quand on vous parle de la découverte de Lucie, comme Alex, vous pensez à un nanar de Luc Besson, notre podcast s'appelle Oyez, oyez.
Non mais c'est quoi, c'est de l'arbre ça?
Oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Donc on l'a bien compris, Manon, vous annoncez la couleur, vous êtes historienne de formation.
Ouais, j'ai un doctorat quoi.
Bah oui.
Dites-le modestement.
Je fais plus de recherche quoi. Je suis dans la vulgarisation, oui, mais je travaille pas à l'université.
C'est la différence entre vous
et des gens qui sont
les autres.
Et la reine des neiges.
Et la reine des neiges.
Bon, et donc l'idée de faire un podcast autour de l'histoire vous est venue tout à fait naturellement?
Bah non, encore une fois, j'y avais pas forcément pensé. Et donc c'est Brain Magazine qui est venu nous chercher. Et je me suis dit, ah, c'est une chouette expérience. J'ai envie de tester. Et moi, j'ai l'occasion donc d'enregistrer des voix pour les épisodes animés que je fais sur ma chaîne. Et j'avais des retours assez cool de « Ah là là, ta voix, ça passe bien, nanana. » Je me suis dit « Peut-être ça peut être un exercice autre pour la travailler différent de la vidéo. »
Mais avec l'idée de vulgariser, disait Charlie, dépoussiérer l'histoire.
Oui, c'est ça, le rendre un peu funky, un peu accessible à tous, grâce à Alex qui a le rôle de détendre l'atmosphère.
Aussi grâce à toi, mais c'est vrai qu'on part toujours d'une problématique qui est très ancrée dans la vie quotidienne. On va avoir un épisode sur l'histoire de la rhétorique et ça va partir de « j'ai un mariage, j'ai pas envie de faire du Madison, je dois faire un discours, qu'est-ce que je fais, c'est quoi l'histoire ?» Et à chaque fois, Manon arrive un peu comme une sauveuse des temps modernes en essayant de dire « grâce à l'histoire, on peut trouver des choses ».
Il y a double effet, il y a dépoussiérer l'histoire et éclairer le présent aussi quand même dans le podcast. Oui, il y avait cette ambition-là aussi, j'imagine.
Oui, tout à fait, il y a un truc qui ancre le podcast. En fait, pour moi, l'histoire, c'est ce qui permet de comprendre le chemin qu'on a parcouru pour arriver là, où on en est aujourd'hui, et du coup, comprendre pourquoi le présent est comme ça aujourd'hui. Oui. En gros, pas prédire l'avenir, mais surtout comprendre pourquoi la société, elle est comme ça aujourd'hui. Mais juste, je veux préciser aussi qu'on me dit « Oh là là, vous êtes historienne, nana !» C'est surtout les invités qui font... Les invités, eux, dans ma tête, il y avait une différenciation, qui font le contenu quand ils viennent et qui transmettent. Moi, je fais en vrai que poser des questions aussi. Hein.
Oui, mais des questions fondées, puisque vous êtes... Bah oui, bien sûr, parce que nous le disons, Alex Ramirez avec un S au bout, vous êtes stand-upper, mais vous êtes là pour apporter du fond à ce podcast en posant des questions pointues du style, je cite, « Pourquoi n'y a-t-il pas de boudin de porte dans les vieux châteaux pour éviter les courants d'air ?»
Bah oui.
Fin de citation. Bonne question, effectivement. Mais finalement, vous ne seriez pas un peu le Stéphane Plaza de l'histoire?
Je suis le Stéphane Plaza, je suis la Christina Cordula aussi du passé.
Je suis pas la Stéphane Bern.
Et on est là... Oui, parce qu'on ancre avec un éclairage un peu pop, parce que c'est ce qui me ressemble aussi, et surtout pour que ça intéresse. Pour que ça intéresse, on va dire, les autres Alex Ramirez qui n'y connaissent rien, qui vont se dire, oula, l'histoire, vraiment, moi, ça me fait penser à Madame Grimbert, qui voulait nous menacer de taper avec un annuaire, parce que ça faisait pas de marque, et vraiment. Et on a envie d'aller au-delà de ça, et c'est toujours des problématiques, quoi, qui sont finalement très ancrées dans une réalité, et j'aime bien nos thèmes, parce que on casse un peu les clichés, la représentation, on parle beaucoup même, des femmes, parce que souvent l'histoire les laisse un peu de côté, des personnes homosexuelles, c'est des choses, on insiste un peu là-dessus aussi parce que c'est important.
Et alors pardon de poser la question aussi abruptement, mais Alex, combien en histoire au bac?
J'ai pas eu la moyenne.
Je dirais 9. Combien ils y sont allés ou
9 à 5.
Et moi, j'ai eu 11 ans. Donc, vous voyez, comme quoi.
Ah, mais tout espoir, ouais. Tout espoir reste, reste permis. Mais pourquoi? Parce que ça ne vous intéressait pas tant que ça, l'histoire, à l'époque?
Pas encore.
C'était quoi, le... C'était quoi le déclic?
C'est parce que, après, en prépa, j'ai eu un prof d'histoire génial. En prépa littéraire, par contre, je suis en train de faire prépa littéraire, j'ai eu un prof génial. C'est souvent comme ça.
Voilà.
Et moi, c'est maintenant. Parce que c'est fun et que c'est ludique. Et je pense que ça me manquait de ludisme.
Et ce qui est chouette d'ailleurs, c'est qu'on a des questions préparées, un conducteur avec notre équipe et tout, qui nous fait un super travail en amont pour qu'on soit à l'aise pour discuter avec les historiens et les historiennes. Mais en vrai, dans la conversation, souvent on se laisse porter. Alex, il y a des questions qui lui viennent en plus auxquelles on n'aurait pas pensé, etc. Et c'est aussi, là que le démontage de clichés vient, parce qu'on fait ah, mais c'est vrai que moi, mais même moi, parce que moi je suis spécialiste d'une toute petite période en vrai avec mon doctorat. Ouais. Et du coup, quand je discute avec une historienne du Moyen-Âge, je dis ah, mais d'accord, mais moi je croyais que c'était comme ça. Et on se rend compte au fur et à mesure en discutant avec eux, en vrai.
Parce
que
j'aime beaucoup cette idée de démonter le cliché.
Parce que dans chaque épisode, vous le disiez, des historiennes et historiens spécialisés sur certaines périodes, parce que vos questions sont très précises. Les sujets sont, oui, traités avec humour, mais le contenu est assez dense et les explications sont circonstanciées. Comment est-ce que vous choisissez les périodes que vous voulez éclairer?
Alors, on a essayé déjà de... bon, on a commencé par des questions qui nous parlaient et des affinités qui correspondaient au sujet qu'on avait envie de traiter. Mais ensuite, on a aussi, en discutant avec toute l'équipe, essayé de pas revenir sur des périodes qu'on avait déjà fait, donc essayer de brasser un peu tout. Donc nous, on a enregistré un peu plus d'épisodes, évidemment, que ceux qui sont diffusés. Mais vous allez voir qu'on parcourt un peu toute la période histoire et même préhistoire. Cet épisode est déjà sorti. Donc on réfléchit à ça. Est-ce qu'on a déjà fait? On réfléchit aussi à un peu de parité pour avoir des invités hommes et femmes. Et on réfléchit à, voilà, encore une fois, est-ce que c'est une question qu'on peut ancrer un peu dans ce truc de démonter un cliché, cette problématique de démonter un cliché, faire résonner le présent, etc.
Ah, en gros, c'est ça. Ouais, cliché.
On démonte les clichés.
J'adore cette expression.
Démonte-moi le cliché.
Oui, démonte-moi le cliché.
Je vais démonter ton cliché, tu vas voir.
Non. Alors, Manon, à travers ce podcast, vous souhaitez surprendre Alex, bien sûr, mais vous surprendre vous-même.
Oui, c'est ça, c'est ce que je
disais. Mais ça veut dire que vous n'avez pas réponse à toutes les questions.
Comment ça, Manon, t'as pas réponse à tout?
Mais tu sais, moi j'ai vraiment une spécialité très précise avec mon doctorat, quoi, mais en dehors de celle qui... J'ai travaillé sur l'Antiquité au 19e siècle, en gros. Ouais. Hein. Et donc le reste, mais vraiment, typiquement, le Moyen-Âge, je peux rien vous dire. Mmh. Mais rien, quoi. Mmh. J'ai pas, ça fait 1000 ans, j'ai fait une année en L2, puis voilà, quoi, c'est tout. Puis, donc,
Oui, Alex.
Oui, non, mais c'est ce qui est super avec ce podcast, quand on démontre les clichés, justement, c'est qu'après, on peut briller facilement en société. Mm-hmm. Tu savais qu'au Moyen-Âge, ils n'avaient pas les dents si pourries, parce que le sucre n'était pas encore arrivé, et ils avaient leur propre dentifrice. Et on retient des petites anecdotes comme ça, et je trouve que c'est pas mal, parce que...
Et c'est
comme
ainsi qu'on finit par danser seul en soirée.
Parce qu'on prend ça bien au Moyen-Âge.
Alex, il est 3h du matin, vraiment, il faudrait partir, là.
Mais les femmes préhistoriques, elles n'étaient pas dans les grottes, et je le sais maintenant.
Alex, ok, le sucre, le Moyen-Âge, qu'est-ce que vous avez appris, vous, depuis que vous participez à ce...
Bah ça déjà.
Vous n'avez pas le droit de faire le coup du sucre au Moyen-Âge.
Que les pirates n'enterraient pas vraiment leur trésor. Ouais. Qu'ils avaient plutôt tendance à le dilapider avant d'enterrer quoi que ce soit. La commune, c'était un espèce de monde d'extrême gauche utopique. Je connaissais rien du tout. Et qu'il y avait des avancées sociales dingues. L'histoire de la rhétorique, qu'est-ce qu'on a fait d'autres, les années. Que les années folles n'étaient pas si folles en fait.
Aussi.
Et que les femmes préhistoriques n'étaient pas dans une grotte, vraiment. Et que d'ailleurs, personne n'était dans une grotte.
Ceci étant, il y a quand même aussi un fil conducteur vous concernant. Alex, vous semblez être très agité par la question des cheveux des gens. Hein. Ça revient quand même assez fréquemment. Oui. Donc, à quand le podcast Hair Story, Histoire de France et Histoire du Mulet, un truc, peut-être une tentative.
Je note vraiment. On a envie de travailler sur des thèmes aussi, l'histoire de la fête ou l'histoire de la boîte de nuit, vraiment des choses comme ça, un peu plus sur un thème très précis, plutôt que des grandes périodes. Donc le meilleur reste à venir.
Why not?
Bien, chers amis auditeurs, ne bougez pas, nous allons continuer à parler de Oye Oye dans la suite de cette émission avec Alex Ramirez et Minon Bril, mais pour l'instant, qu'est-ce que j'ai dit?
Minon.
Bon, c'est Minon, c'est
Minon, c'est Manon.
Minon. Non, bah dorénavant je m'appellerai Minon Bril.
Moi j'aime bien Minon Bril. Non. Bon, chaque vendredi dans Papa Podcast, Charline Roux, ici présente, nous livre une sélection de podcasts à glisser entre vos deux oreilles chastes ou non. C'est l'heure du Popcast Jingle.
Le Popcast.
Le Popcast.
Oui, et merci encore une fois à l'équipe de 2 heures de perdu pour ce jingle homemade. Et tout est dans la notion de homemade, bien sûr.
Je vous le confirme. Et on démarre par une enquête musicale passionnante qui nous permet de découvrir un nouveau podcasteur.
Je m'appelle Alex Beaupin. J'avais 10 ans, en 1984, quand est sorti l'album Love on the Beat. M'en restent des souvenirs vivaces, une sensation de stupeur face à ces chansons, tissées d'obscénité et de poésie. Et puis il y avait cette voix, une voix ricanante et mélancolique, posée sur des déflagrations de funk. Love on the Beat n'est peut-être pas l'album le plus commenté, mais j'ai toujours eu la sensation que c'était le mien. Que tout partait de là et qu'un jour ou l'autre, il me faudrait y revenir.
Alex Baupin a repris cet album, mais aussi enquêté sur la jeunesse de ce disque qu'il qualifie de poème pornographique. Et il a rencontré ceux qui ont accompagné la naissance du disque, parmi lesquels un certain Philippe Manœuvre, en visite chez Gainsbourg, alors en panne d'inspiration après son deuxième album reggae.
Et je me souviens très bien, un après-midi, d'aller rue de Verneuil avec un sac en plastique où j'emmène. Il m'a dit « qu'est-ce qui se passe en ce moment ?» Et en fait, j'emmène l'album solo de Nile Rodgers, yes, hein, « L'End of the Good Groove », l'album de Chic avec Good Times, mm-hmm, et c'est ça que je lui fais écouter.
Donc une direction très Nile Rodgers, bah, déjà, enfin quand même.
Parce qu'il y a eu un séisme.
Du moment, quoi.
Parce qu'il y a eu un séisme. Elle c'est dance. Qu'il y a eu l'arrivée de Michael Jackson, mm-hmm, de Prince et de Madonna. Et ça a complètement changé la donne. Téléphone s'est dissous. Les Stones s'arrêtent. On les voit plus pendant 5 ans après 1983. Il n'y a plus de Stones jusqu'en 89. Et donc, moi, je fais écouter à Gainsbourg ces trucs de Nile Rodgers. Et je lui dis, c'est Bernard Edwards et Nile Rodgers qu'il faut contacter. Voilà. Et il écoute ça 5 minutes. Il me dit, OK, compris. Parce qu'il me dit, les autres m'ont fait écouter la même chose.
Les autres étant Philippe Le Richaume et Jean-Pierre Vella, respectivement directeur artistique et ancien du label Island, celui-là même de Bob Marley, fraîchement installé à New York. Et la suite, c'est dans In Love With Love On The Beat, un podcast Because Music et Paradiso.
Et de la musique à la littérature, il n'y a qu'un pas.
À franchir allègrement grâce au podcast Perds pas ma page, à l'initiative d'Edouard Bonamour, qui nous permet d'aller découvrir la bibliothèque idéale d'artistes, de chanteurs, d'auteurs, de chorégraphes, les livres qui les ont marqués, influencés, éduqués. Un podcast qui permet de faire connaissance autrement avec ses invités et qui surtout donne envie de lire. Le podcast de toutes les littératures, et ça c'est chouette, la preuve avec le danseur et chorégraphe Mehdi Kerkouche, qui cite aussi bien Soufi mon amour d'Elif Shafak que ceci.
Je me suis rendu compte que j'étais très stressé à l'idée d'avoir cet entretien. Et du coup, j'étais hyper focus sur quelles étaient les meilleures lectures que j'ai faites dans ma vie. Et du coup, d'abord, il y avait Le hasard n'existait pas. Après, il y avait Les nuits fauves. Et ce matin, en me réveillant, alors qu'on se voyait ce soir, j'étais en mode, mais attends, t'as jamais lu un truc léger dans ta vie, Mehdi, c'est quoi le délire? Et en fait, si. Et j'avais lu Et si c'était vrai, de Marc Lévy, que j'avais adoré à l'époque. Et que j'avais conseillé à absolument tous mes potes, en mode, mais vas-y, ça fait du bien, ça te fait rêver, ça te fait croire encore deux secondes en l'amour, alors que ce monde est horrible. Et en fait, c'était très cool. Et j'en garde un très très bon souvenir. Et j'ai même aimé le film.
Je ne dirai rien, je ne rebondirai pas sur cette affirmation.
J'ai même aimé le film parce que c'est mon côté très fleur bleue.
Eh ben moi aussi, j'ai bien aimé le film avec Reese Witherspoon. Jugez-nous, Perds pas ma page, c'est dispo sur toutes les plateformes.
Et enfin, nous allons sonder les mystères du cerveau humain, enfin de ce qu'il en reste.
Anaïs Roux, aucun rapport, hein, comme les Karamazov, est psychologue et elle a une passion, la vulgarisation des neurosciences cognitives et l'idée de rendre accessibles les connaissances sur le cerveau. C'est ce qu'elle fait dans le podcast Sapiens, dont la troisième saison a démarré. Que se passe-t-il quand vous avez un mot sur le bout de la langue, lorsque vous tombez amoureux, lorsque vous avez une sensation de déjà-vu, ou encore que se passe-t-il quand on rêve? Qu'est-ce que ça signifie? C'est l'objet d'un double épisode pour lequel il est nécessaire avant toute chose de s'intéresser à la méthode.
Étudier un rêve par-ci par-là, ça ne donne pas beaucoup de grain à moudre aux chercheurs, qu'on soit bien d'accord. Par conséquent, il y a plusieurs années, William Domoff, psychologue à l'Université de Californie, a eu la brillante idée de créer une sorte de banque de données des rêves. Dans cette banque de données sont consignés aujourd'hui plus de 20 000 rêves. De nombreuses études se sont basées sur cette banque des rêves pour étudier leurs fonctions et mécanismes. Et ces études nous ont d'ailleurs révélé plein de choses sur les rêves. Par exemple, les rêves contiennent en moyenne deux fois plus d'émotions négatives, comme la peur, la colère, la honte, que positives, comme la joie, le bonheur, le plaisir. On y apprend aussi que rêver de sexe est rare. Il n'est présent que dans 2% des rêves des hommes adultes et 0,5% de ceux des femmes.
Vous êtes dans les 2 ou dans les 98%, Alex?
Alors moi, je suis dans
Antoine.
Les 98% des 2%.
Dans les 2. Mais souvent, c'est chelou.
Si vous avez des questions sur le fonctionnement de votre cerveau, vous pouvez aussi les poser. Pour tous les renseignements et pour retrouver le podcast, neurosapiens.fr.
Merci Charline, vous êtes décidément à la pointe et j'ai les oreilles pointues, surtout la gauche d'ailleurs.
C'est
noté. C'est, c'est vrai, vous aussi.
C'est votre côté
comme un lutin.
Orlando Bloom un peu.
Ah ouais, ah ouais. Regardez-moi.
Ah oui.
Manon Bril, Alex Ramirez avec un S au bout. Retournons dépoussiérer l'histoire ensemble dans la suite de Popo Podcast avec votre podcast Oye Oye. Ce sera juste après Es el Amor. C'est un morceau du groupe Cannibal. C'est un groupe labellisé Band Bad Records.
Inter. Antoine Decaune. Pop.
Manon, cet été, j'avais envie de faire un feu.
Du feu, c'est-à-dire pour un barbecue?
Ouais, bah oui, oui, non, pas pour un bûcher, c'est plus trop la tendance. Donc oui, un barbecue. Mais tu vois, du coup, je me suis mis à penser aux hommes préhistoriques. Et j'ai bloqué sur l'expression homme préhistorique. Et j'ai réalisé que toutes les représentations que je me faisais de la préhistoire, c'était des mecs. Des mecs qui peinent, des mecs qui chassent, des mecs qui font... Des mecs qui font du feu, et les femmes,
Elles sont un peu dans le fond de la caverne avec un bébé sur chaque gougoute, quoi.
Voilà. Et une coupe de cheveux pas dingue aussi, hein. Donc au sujet des femmes préhistoriques, tu vois, j'ai pas pléthore d'images dans ma tête.
Ah bah ça me surprend pas du tout, Alex, que tu me dis, parce que c'est en fait le gros cliché véhiculé au grand public. Écoute, on va essayer de démonter ça. On va se donner 30 minutes pour te donner une autre image, une image un peu plus précise des femmes préhistoriques grâce à notre invité.
J'adore. Franchement, t'es vraiment dans une générosité culturelle et émotionnelle. On parlera de leur coupe de cheveux ?
Pas du tout.
Alors, ce que vous venez d'écouter, c'est l'intro de Oye Oye. C'est le podcast de Manon Bril et d'Alex Ramirez, avec un S au bout, nos invités du jour. Ici, un épisode sur les hommes préhistoriques, dans lequel vous allez à l'encontre des idées reçues sur cette période assez méconnue, en réalité.
Assez méconnue.
Il y a peu de vidéos sur cette période.
Exactement. Il y a pas beaucoup de vestiges archéologiques, c'est sûr, même s'il y en a quelques-uns. Et
surtout, c'est une très longue période.
C'est une très très longue période et victime de beaucoup de clichés par rapport au moment où on a commencé à s'intéresser à la préhistoire, c'est-à-dire au 19e siècle, et où les historiens n'avaient pas tout à fait les mêmes méthodes qu'aujourd'hui et plaquaient beaucoup les schémas de leur société qui étaient, il se trouve, très sexistes à ce moment-là. Et donc, sur ce qu'ils observaient, et on en déduit que, les femmes, elles servaient à rien, c'était au fond de la cave. Et en fait, même si ça fait longtemps que les chercheurs quand même ont revu leurs copies et tout, ça met du temps à passer dans les représentations du grand public. Parce
c'est ça,
que...
c'est l'homme partait chasser le mammouth pendant que maman cuisinait pour les petits-enfants. Avec les...
Très, très belle tentative de réhabilitation du mot gougoute.
Ouais, j'essaye.
Ouais, on était très heureux.
Voilà. Est-ce qu'il y a encore des périodes que vous avez du mal à traiter, faute d'angle pour les rendre accessibles ou faute d'intérêt ou...
En fait, ça va beaucoup jouer. Moi, j'adorerais faire l'Égypte ancienne, mais il faut toujours avoir un axe.
À cause du dessin animé, à cause de la BO.
When you become, when you believe. Voilà, évidemment, pour avoir Marika, pour inviter Marika et Whitney Houston. Enfin, surtout Marika. Non, c'est parce qu'en fait, il faut avoir des assez d'idées reçues pour pouvoir les démonter aussi. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui avancent. Et souvent, voilà, comme c'est notre axe un peu principal, il faut avoir des choses dans lesquelles on a un pied dedans, mais on veut aller plus loin, et il faut trouver ce juste milieu, je dirais.
Ouais, des fois, on a des discussions sur ça, on n'est pas toujours d'accord. Moi, par exemple, je dis « Ah, mais il faut inviter cette personne, il ou elle est trop bien et tout », et ils me disent « Oui, mais d'accord, mais pour quel sujet ?» Blablabla, bref, c'est le genre de conversation.
Avec cette voix-là.
Oui, on parle tous comme ça dans sur Discord. Voilà.
Manon Bril, contrairement à ce que nous pourrions penser de votre chaîne YouTube, c'est une autre histoire, votre public n'est pas un public de millénials, non. Quelle était la cible, comme on dit, au marketing de chez Danone?
En vrai, si, quand même, c'est plutôt les millennials. C'est-à-dire que les millennials, c'est les gens de mon âge, quoi, en vrai. C'est pas la Gen Z. Oui. La Gen Z, c'est ceux de 20 ans.
Génération Z.
Et non, en fait, ouais, mon public, il a plutôt 18-35, ouais. Le cœur de cible. Pas très jeune. Ouais. Pas jeunes adultes, enfin, pas adolescents et tout. Ils sont un petit pourcentage, ça augmente un petit peu avec les épisodes animés, mais en effet, contrairement au cliché, non, sur YouTube, il n'y a pas du tout que des ados, mais je pense que maintenant, les gens le savent quand même, ouais. Puisque tout le monde consomme YouTube, je crois, maintenant. Donc,
mais c'était le public auquel vous vous adressiez spécifiquement?
J'y ai pas spécialement réfléchi. J'ai vraiment parlé comme j'avais envie de faire, et du coup, sans trop de surprise, c'est ma génération qui écoute. Ouais. Ce qui est pas
pour le podcast aussi.
Pour le podcast aussi, ouais, tout à fait. Et comme on ne sait pas encore quel est notre public, je suis curieuse.
Justement, Alex Ramirez, si votre public de YouTube et des comédie clubs vous suit sur cette nouvelle aventure, ça va commencer à faire du monde, tout
c'est
ça.
C'est exponentiel.
Oui, et puis vous découvrez une nouvelle facette de moi, je suis tellement multiple. La joie, la peur. Vous voyez tout ce que je sais faire dans ce plateau. Non, en vrai, c'est ça, c'est que moi j'avais envie d'explorer et mon ignorance, si elle peut servir à quelque chose pour une fois. Et en plus, la manière de. C'est compliqué parce qu'on ne va pas couper la parole des historiens, des historiennes qu'on reçoit, mais on essaye de garder toujours des vannes sans que ce soit attention, c'est le moment punchline. Et j'ai même un point pop, comme quoi vous faites des émules, où on se rend compte que les représentations tronquées du passé, c'est souvent lié aux films et aux réalisateurs et aux réalisatrices qui font un peu de la merde, hein, quoi.
Ouais.
Le mec qui dénonce.
Sur YouTube, on peut apprendre à se maquiller pour être belle comme Kim Kardashian, mais on peut aussi se rencarder sur Héraclite. Voilà ce que vous déclariez il y a quelques temps, Manon Bril. Alors je sais désormais, grâce à votre podcast, qu'on peut plus se regarder sur Héraclite que sur le tuto maquillage de Kim Kardashian. Vous n'avez pas l'impression de déséquilibrer un peu la balance d'un seul coup, là?
C'est-à-dire?
C'est-à-dire, vous allez intéresser les millénials, comme vous le dites très bien, à des sujets d'intérêt.
Et c'est surtout qu'apprendre à se maquiller par podcast, ça ne marche pas. Hein,
alors,
donc, du coup,
c'est bon, se maquiller comme Héraclite. C'est plutôt penser que les gens ne s'y intéressent pas qui est faux, je pense. Et moi-même, je suis partie en me disant, ça ne fera jamais des milliers, des cents, une chaîne comme ça. Et en fait, maintenant, il y a quand même 600 000 abonnés. Donc, en fait, comme quoi, il ne faut pas sous-estimer le public. Hein. Les gens, ils sont contents d'apprendre des trucs. Moi, je dirais que c'est plus se divertir culturellement qu'apprendre vraiment. C'est pas des cours, mais voilà. Et du coup, force est de constater que ça plaît. Puis il y a des chaînes culturelles encore plus grosses que la mienne, hein, clairement.
Histoire et pop culture ne sont donc pas antinomiques dans Oyé, Oyé. La preuve ici avec Jean-Yves Le Naour, c'est un historien qui parle de Britney Spears au cœur de votre épisode sur les années folles.
Il y a un lien avec Britney Spears parce que elle dit I must confess, I still believe. Hein, je fais une exégèse. Mais I still believe, je continue à croire. Et bien, I still alive, tu pourrais dire. Les années 20, on veut continuer à vivre. C'est les années de la résilience. Il faut essayer de dépasser de surmonter toutes ces tombes. La nation doit continuer à vivre, même si, comme dit Paul Valéry, nous avançons dans l'avenir. En reculant.
Waouh, grand écart. Britney Spears, Paul Valéry.
On était trop contents qu'il rebondisse sur notre blague de Britney Spears qu'on avait posée. Et d'ailleurs, en fait, on va préciser qu'évidemment, les historiens et les historiennes qui viennent dans l'émission, ils sont un minimum un petit peu
sensibilisés,
réceptifs à la vulgarisation. Donc un petit peu rock'n'roll et un peu. parce que oui, il existe aussi des vieux croutons dans leur tour d'ivoire, c'est vrai. Mais ils sont pas du tout tous comme ça. Et la preuve, ils viennent discuter avec nous, ils sont contents. Et ce sont des gens comme tout le monde qui ont leur rêve de pop culture aussi, bien sûr.
Et puis c'est aussi une bonne manière de rappeler que l'histoire n'est pas une matière figée. On peut encore et toujours faire des mises à jour.
Tout à fait. Au fil des découvertes, c'est comme toutes les sciences, donc c'est une science humaine et sociale, mais il y a des trucs qui sont découverts au fur et à mesure qui peuvent démonter des trucs précédemment.
Alors Manon, je sais que vous avez l'habitude de vous poser des questions historiques du type pourquoi les statues ont-elles des petits pénis ? Avez-vous prévu de consacrer un podcast à ce sujet ? Et je ne regarde pas Alex Ramirez, bien sûr, en vous posant cette question.
Vous
n'êtes pas une statue, Alexandre.
Un podcast, c'est... Alors, on se disait d'ailleurs qu'on n'avait pas eu encore un sujet antiquité et qu'il fallait qu'on y réfléchisse. Donc, justement, parce que moi, c'est un peu mon dada. Ouais. Donc, en effet, carrément, il faut qu'on y pense. Et il faut qu'on trouve l'angle qui va démonter une idée reçue que les gens ont. On avait pensé à pourquoi les statues n'étaient pas blanches et tout. Mais c'est vrai que ça a pas mal déjà été traité dans les médias en ce moment. J'ai fait une super vidéo avec Charlie Danger sur sa chaîne sur le sujet et tout. Donc, c'était peut-être autre chose. Mais oui, carrément, il faudrait qu'on.
C'était plutôt le fait que certaines statues finalement ne sont pas les originales.
Par rapport à
Romains avaient repris des statues des Grecs et on parle de ce principe que ces statues sont les originales alors qu'en vrai
c'est du copy-comique de statues. Non mais c'est quand même des statues antiques, tu vois, donc je sais pas si c'est un égal démontage de cliché.
Est-ce qu'ils mangeaient vraiment allongé?
Oui, voilà, alors il y a ça.
Parce que le raisin, merci bien.
C'est ça?
Les orgies. J'ai pas la réponse pour s'ils mangeaient allongé, mais surtout le truc des orgies, c'est quelque chose d'exagéré et de cliché, donc j'ai pensé à ça peut-être.
D'accord, donc là t'es en train de péter tout mon thème de la prochaine soirée.
Ah non, mais t'inquiète, on l'a pas encore fait, c'est bon. Tu peux y aller.
Personnellement, je n'ai jamais été ni surpris ni étonné par la modestie des pénis de l'Antiquité. Hein. Enfin,
c'est un signe d'intelligence en l'Antiquité, et de contrôle de soi.
C'est quoi, on mesure ça aujourd'hui. Bon, nous parlons avec Manon Bril et Alex Ramirez, avec Anne Sobou, hein, de ce podcast. Voilà, depuis le début de cette émission, on dira encore un mot tout à l'heure, mais pour l'instant, pop break dans ce numéro de Pop-up Podcast, c'est l'heure des pop news. Des pop news spéciales, évidemment.
Un podcast en famille pour les Smiths. Trois générations sont réunies dans Red Table Talk. Jada Pinkett Smith, comédienne et épouse de Will, sa fille Willow, sa mère Gammy. Et je cite, elles ouvrent leur maison pour des conversations sans tabou avec la famille et les amis sur des sujets importants, provocateurs, ceux de la journée. Ainsi parle-t-on de racisme comme de cyberstalking, de sexe avec Gwyneth Paltrow, comme de lifting des fesses, de polyamour, d'alcoolisme. Ambiance soirée pyjama entre copines avec invités ravis et parfois survoltés comme Salma Hayek.
Fantastic job, amazing idea, amazing concept. We have all been craving for a safe place where we can be real and that it can have the amazing dynamic that the three of you create.
À mettre au crédit de ces dames, comme le dit Salma, un environnement qui pousse à la confidence, une safe place à retrouver dans ce podcast Red Table Talk. Et un podcast musical qui explore l'art de créer certaines des plus grandes chansons pop du monde, rien que ça. Ça s'appelle Switched on Pop. Les autres sont les musicologues Nate Sloan et le compositeur Charlie Harding. Et ils dissèquent ensemble les mécaniques des chansons qui nous restent bien dans la tête. Et moult grands tubes accessoirement. Dead Sheeran de James Blake, les BO de James Bond, Taylor Swift, etc. Ils partent parfois de loin, voire de très très loin pour expliquer le succès, notamment quand il s'agit d'ABBA et qu'ils confessent ne pas franchement être fans du groupe.
I don't think I've ever really appreciated them. In fact, I myself have been an ABBA hater. And I'm not alone. Like the eminent Rolling Stone critic Robert Christgau once wrote of ABBA, "We have met the enemy and they are them."
Ooh, harsh.
Nous avons rencontré l'ennemi et l'ennemi, c'est eux, eux étant ABBA. Ainsi parlait Robert Christgau, pop critique de Rolling Stone. Alors pourquoi ça marche? Eh bien la réponse est dans Switched on Pop.
France Inter. Pop-pop-pop, Antoine Decaune.
Ah, amazing news, fantastico.
Salma Hayek.
Ben oui, évidemment, Salma Hayek. Merci, Charline. Alex Ramirez, je sais que Jamiroquai vous fait du bien aux oreilles.
Oui.
Et comme le but de cette émission, c'est de faire du bien aux oreilles de nos auditeurs, eh bien, je vous propose tout de suite d'écouter Virtual Insanity pour faire du bien à tout le monde.
And for the worst, see, whoa,
Virtual Insanity, Jamiroquai, c'était en 96. Et oui, ça fait vraiment très plaisir à Alex Ramirez.
Oh, ça oui alors.
Mais oui, mais qui connaît absolument tous les textes sur le bout des doigts.
Distance twisting on a new technology.
Autant
ouais, oui, attends, très bien, c'est exactement ça. Bon, c'était sur l'album Traveling Without Moving, pardon. Vous écoutez Pop Pop Pop, l'émission de pop culture de France Inter, ou plutôt l'émission qui traite la culture aujourd'hui de façon... Wow! Mais ce slip rouge que j'aperçois n'est autre que celui... De celui qui s'appelle, mais Thomas, Biatzi le jour et Cosmo Flash
la nuit. Ouais, c'est ça.
La nuit. Bonjour Cosmo, bienvenue.
Bonjour
chez
Antoine,
nous.
Bonjour c'est tout le monde.
Bonjour. Allez, allez.
Cette semaine, je n'ai pas voyagé. Je suis resté sur mon canapé tranquillement.
Non, attendez, je vous fais une entrée tonitruante. Et vous arrivez avec zéro énergie comme ça, du genre bonjour.
C'est moyen man.
Ouais, Cosmo Flash, Thomas. Cosmo, pardon, c'est à vous. Allez.
Hey.
Voilà, mais pour de vrai, je n'ai pas voyagé cette semaine. J'étais tranquillement sur mon canapé et j'ai préféré explorer le côté obscur d'Internet en écoutant le génial Darknet Diaries.
Ouais, il est foutu quoi.
Si, je vous jure. Mais bon, j'étais sur le canapé, mais je vais vous expliquer. Bon, alors, en français, on dirait le journal intime du Darknet. Bon, là, ça vous aide pas trop, hein. C'est un podcast d'investigation américain lancé en octobre 2017 et qui dissèque méticuleusement des histoires sur les pirates informatiques, les logiciels malveillants, la cryptographie, les crypto-monnaies, je vous expliquerai un jour, la cybercriminalité et enfin, bref, tous les sujets relevant de ce qu'il se passe dans les bas-fonds du web.
These are true stories from the dark side of the internet. I'm Jack Reesider. This is Darknet Diaries.
Voilà, donc ça c'est le générique très emblématique de la série, c'est pour vous mettre dans l'ambiance.
Mais qui dit ?
Qu'est-ce qu'il dit ? Il dit qu'en fait il raconte des histoires vraies du côté obscur d'Internet. Ce mec il s'appelle Jack Reesider, c'est un ancien hacker et il connaît parfaitement cet univers. Et c'est justement ça qui fait tout l'intérêt du podcast, une narration hyper prenante qui nous emmène vers des sujets qu'on pense d'abord réservé aux forcenés de l'informatique, mais dont les répercussions sont bien plus larges. Par exemple, dans cet extrait de l'épisode 27, Jack nous explique son obsession pour le classement podcast d'Apple Podcast, la plus grande plateforme d'écoute au monde, Pop Pop Etu par exemple. Le problème, c'est que personne ne sait vraiment comment faire pour se retrouver dans ce classement. Apple n'a jamais vraiment révélé le fonctionnement de son algorithme, et tout ce qu'on sait, c'est que la plateforme favorise les émissions sur lesquelles les auditeurs laissent des commentaires et des notes.
Mais vous savez si nos auditeurs nous laissent des commentaires et des notes, ou bien s'ils s'en peuvent s'ils s'entamponnent les noix, le mot était les noix, on se calme un peu en régie s'il vous plaît. Et puis on essaye de caler les bips au bon moment aussi, ce serait mieux, merci. Non, enchaînez Cosmo.
Eh bien absolument, d'ailleurs il y a super commentaire d'un certain Antonin de Clone qui dit « Génial cette émission, surtout le présentateur, il y a une faute là de frappe, je sais pas pourquoi, en plus il est très beau, trois petits points ». Emoji pêche, emoji aubergine. Bon, j'ai pas bien compris, mais bon, on le remercie, nous a mis 5 étoiles, donc merci à lui. Donc voilà, vous avez compris, mis à part les commentaires et les notes des auditeurs, la plateforme n'est pas très transparente sur son fonctionnement, et pour pallier ça, Jack nous explique qu'il s'est mis à écouter et répertorier consciencieusement les podcasts du classement en essayant de comprendre ce qu'il pouvait faire pour y apparaître lui aussi. Jusqu'au jour où il remarque qu'un podcast totalement inconnu débarque dans ce classement.
Out of nowhere, a totally unknown, obscure podcast hit the top 200 podcasts for the whole nation. It wasn't made by a celebrity. It didn't have any big branding support. It wasn't from any network. They had no social media presence, no website, and no mention anywhere on Google. What's more is that they had no ratings and no reviews. And no, it wasn't a brand new show. It had been out for 2 years and had 50 episodes. Even if a show is remotely popular, it's going to have one review or rating. But for this one to be around for 2 years with neither was really odd. How in the world did this completely obscure show rise above 99% Invisible, Radiolab, or Reply All and make it all the way to number 50 on the charts?
Mais qui dit ?
Voilà, donc un podcast pas porté par une célébrité, pas produit par un studio de production, sans notes, sans commentaires d'auditeurs, sans réseaux sociaux, qui apparaît dans le top 50 bien au-dessus de podcasts hyper connus. Comment est-ce possible ?
Oui, comment est-ce possible, Cosmo
Flash ? Bien ça, c'est le tout début de son enquête. Il va tout décortiquer et je vous laisserai vraiment écouter la suite pour avoir vraiment tout le détail. Mais tout ce que je peux vous dire d'ores et déjà, c'est que ça se termine au Bangladesh, comme un autre podcast qu'on a écouté au début de la saison. Et ça se termine dans une petite entreprise de marketing chargée d'écouter énormément énormément de podcasts. Mmh. Et plus qu'une narration super bien construite, Jack Reiseder illustre ses enquêtes avec des interviews très complètes d'experts et d'expertes, comme ici avec Kim Zetter, une journaliste spécialisée dans la cybersécurité et autrice d'un livre sur le virus informatique le plus sophistiqué jamais découvert, Stuxnet, dont la cible était une installation nucléaire en Iran.
And so at some point this program that began as an investigation just to determine the efficiency of the Iranian centrifuges, someone got the idea to see if they could actually sabotage it physically. And that's when this solution was proposed to conduct some kind of secret sabotage.
Voilà, donc la journaliste, voilà, elle nous explique la genèse de la création de ce virus informatique bien en détail et qui est aujourd'hui considéré comme la première arme numérique jamais produite par un gouvernement. Mm-hmm. Bon, ça peut paraître un peu compliqué, hein, toutes ces histoires comme ça, mais le podcast vulgarise super bien, comme Oyez Oyez, tous ces sujets et concepts et surtout arrive à bien faire résonner toutes ces informations avec notre actualité. Ça permet d'en savoir beaucoup plus sur les coulisses de ce monde éminemment numérique dans lequel nous vivons aujourd'hui. Et même si ça n'a pas l'air très pop, hein, de prime abord, c'est un super podcast pour compléter le visionnage d'une série comme Le Bureau des Légendes, par exemple.
Alors la question, c'est surtout, est-ce qu'on peut dire pop et de prime abord dans une seule et même phrase ?
Ouais, c'est ça, j'ai tenté.
Bon, merci Cosmo Flash. Oh, il est reparti comme une fusée.
À bientôt.
Mais c'est dingue. Mais oui, mais c'est la vitesse de l'éclair. Bon, Manon Bril,
dans cette émission.
Alex Ramirez, avec un S au bout, à vous dans un instant de nous conseiller des podcasts. Ce sera juste après Billy Goodbye, c'est le tout nouveau morceau signé Franz Ferdinand. Ferdinand dans Papa Podcast avec ce tout nouveau morceau Billy Goodbye. Manon Bril, Alex Ramirez. Chaque vendredi ici, nous proposons à nos invités une séquence hollywoodienne. N'ayons pas peur des mots. Si, ne me regardez pas comme ça, Alex. Jean-Pierre Foucault avait son coup de fil à un ami. Eh bien, nous avons le podcast que l'on conseille à un ami. Ça s'appelle le podcast, évidemment.
Ah oui.
Jingle, oui. Et c'est à vous de conseiller un podcast à un pote, en deux mots, parce que vous choisissez chacun un podcast et on va en diffuser des extraits. Alors on commence par vous, Manon Bril, que nous conseillez-vous ?
Je vous conseille un podcast que j'ai découvert en y allant, du coup en recevant l'invitation, qui s'appelle Tourista, qui est le podcast de Maxime Muscat et Marie de Breuer, qui parle de voyage. Donc à chaque fois, un ou une invitée vient raconter ses meilleures ou pires anecdotes de voyage. C'est très rigolo. Donc voilà, un podcast bonne humeur pour parler voyage et en plus entendre des gens marrants. Et Maxime et Marie sont une bonne paire de rigolos très agréable à écouter, je trouve.
Voilà la recommandation donc de Manon Bril, Tourista, présenté par Maxime Muscat et Marie de Breuer. Vous avez été invité dans un épisode ?
Oui, absolument. C'est comme ça que j'ai découvert, du coup.
Et alors, vous avez parlé de quoi ?
Moi, j'ai parlé notamment de comment je me suis fait piquer par le poisson Pierre pendant un voyage en Polynésie, qui est le poisson le plus venimeux au monde.
Et vous y avez survécu ?
Apparemment, j'ai survécu, mais j'ai eu super mal. Dans les 10 douleurs les plus graves au monde.
Écoutons ce que ça donne.
Bon, alors, on commence par quoi de tes aventures de voyage ? J'ai fait la liste sur tes Insta. Tu les laisses à la lune.
Je les laisse à la lune.
Il y a Tenerife, l'Indonésie, le Japon, Tahiti, Bratislava, Vienne, Bucarest, Pompéi et Amiens.
Oui.
Que tu as laissé au milieu de tout ça.
Moi, je pense qu'on commence par Amiens.
On fait un petit bisou aux Amiennois.
Bien. Et vous ?
C'est plus sur Insta d'ailleurs. J'ai enlevé ça maintenant, mais bref.
Et vous, Alex Ramirez, Canet Sobo, vous avez choisi quoi ?
Moi, j'ai choisi le podcast On est chez nous. Alors, ça fait un peu nationaliste, le On est chez nous, mais c'est pas du tout ça. C'est même tout l'inverse. C'est une ouverture sur le monde. C'est Sophie-Marie Laroui qui va à la rencontre de ce qu'elle appelle des témoins. C'est des gens qui restent anonymes d'ailleurs et qui racontent leur histoire. Elle a une manière très poétique de les décrire. Elle alterne justement ces interviews qui sont des interviews un peu fleuve. Elle les entrecoupe d'observations qu'elle a. Elle va chez eux. On découvre des fermes bio. On découvre des gens qui ont eu 1000 vies. On découvre et c'est passionnant. Il y a une musique assez dingue derrière. Donc on est entre une œuvre un peu artistique et un reportage et une interview. Ouais.
Nous la recevons la semaine prochaine.
Ah bah vous l'embrasserez ma part.
Podcast et on l'embrassera très fort. En attendant, on écoute la bande-annonce.
On est chez nous, à l'intérieur de soi et sur le territoire qui nous porte.
Du coup, je reçois un courrier 3 semaines après une lettre recommandée de la part de la préfecture. Et ils m'ont donné une obligation de quitter le territoire français sous 30 jours.
On râle, on baisse les bras, on pèse le monde.
Il y a une phrase qui dit que mieux faire des enfants forts que réparer des adultes cassés.
On pleure, on arrête de respirer, on se souvient qu'en haut, il y a la crête des sentiments. On cherche à aspirer les chagrins résiduels qui sont dans les coins. On est chez nous n'importe où, parce que c'est ça la France, madame. On va arrêter là.
On est chez nous, c'est le podcast de Sophie-Marie Laroui, coproduction Binge Audio et Spotify. Vraiment, c'est très bien.
Ouais.
Confirmation.
C'est trop, trop bien.
Prochaine.
Des frissons.
Dans Pop Pop Podcast. Merci, voilà, merci infiniment à tous les deux d'être venus aujourd'hui.
Merci beaucoup,
dans cette
c'était le plus beau
merci
des Noël.
Alex. Merci Manon.
Merci beaucoup.
Merci. Oyez. Votre podcast est à retrouver sur Spotify toutes les 2 semaines. Et j'en profite pour annoncer que vous êtes actuellement en tournée, Alex Ramirez, avec votre spectacle Sensiblement Viril. Oui. Et vous ferez un stop à Paris au Trianon le 21 novembre pour 2 représentations.
Allez-y, le spectacle est super.
Ah oh bah, merci.
Ah oui, bah de rien.
Merci, Charline Roux. Manon, vous l'avez vu ?
Pas encore, je suis invitée. Donc
nous
j'y vais
y serons tous le 21 novembre. Merci Charline.
Merci à vous.
À lundi. Je ne remercie pas Cosmoflash parce qu'il s'est déjà évanoui dans l'espace depuis longtemps. Encore que, non ? Ah non, il est parti. Et merci à toute l'équipe de Pop 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 et à Alexandre Chenet qui était à la technique aujourd'hui lundi dans l'émission. Le scénariste Fabien Grolot et le dessinateur Jérémy Royer viennent nous parler de leur BD L'étrange voyage de Robert Louis Stevenson. Ça devrait être passionnant. Mais avant lundi, rendez-vous partout sur les internets. 3615 Pop Pop Pop. Dans un instant, retrouvez Charline Vanhoenacker et toute son équipe pour un nouveau numéro de Par Jupiter.